De minuit à 7 heures, quatrième partie, chapitre 4. La chasse. Après le départ de Nelly Rose, il y eut dans la pièce un moment de silence. Le juge d'instruction semblait hésitant. L'innocence de Gérard ne faisait guère de doute pour lui. Mais que pensait Nanta? Et justement, l'inspecteur Nanta intervenait. « Tout ça, dit-il à Gérard, c'est très joli. » Mais c'est un peu du sentiment, des impressions de jeune fille. Je ne dis pas, ça a sa valeur. Il n'a pas tué. Bon, c'est son opinion à cette petite. Mais tout de même, au fond, tout ça n'empêche pas que vous avez très bien pu, même sans le vouloir, même avec de bonnes intentions, tuer Baratov au cours de la rixe. Oui, je répète, même sans le vouloir. J'affirme que je l'ai laissé parfaitement vivant. D'ailleurs, il a été égorgé. Je n'avais sur moi aucune arme qui me permît. Vous aviez toujours un gentil petit Browning qu'on vous a vu au bastringue d'Auteuil. Je sais bien, les rues ne sont pas sûres. Mais bon, admettons pour un moment. Alors, racontez, selon vous, ce qui s'est passé. Eh bien, Gérard fit un effort pour être clair, précis et ne rien oublier, sans toutefois rien dire d'inutile. « Eh bien, Baratov et moi, nous avions déjà eu un commencement de discussion au sujet des titres. Quand je suis revenu à 11 heures le soir, j'ai trouvé Baratov prêt à sortir pour aller où vous savez. J'ai voulu l'en empêcher. Je lui ai aussi reproché de vouloir s'emparer de la fortune de Madame d'Estol. » Il l'a avoué avec cynisme. Il m'a provoqué. Il s'est jeté sur moi. Nous avons lutté, je l'ai terrassé. Il était étourdi de sa chute, mais sans la moindre blessure. Je l'ai bâillonné, ligoté avec les courroies de sa couverture de voyage pour qu'il fût incapable de bouger de toute la nuit. Son étourdissement ne dura qu'un moment. Il revint à lui, parfaitement vivant, je vous le répète. Je voyais ses yeux qui me fixaient, chargés de haine et de rage, et il s'agitait convulsivement. Je l'ai donc, pour plus de sûreté, attaché au pied du lit. J'avais pris dans la poche intérieure de son gilet la pochette contenant les papiers. Je suis alors descendu. Sortant de l'hôtel, durant quelques minutes, réfléchissant ainsi que je vous l'ai dit, j'ai marché sur l'avenue. Je me suis même arrêté à une terrasse, un nouveau bar dont j'ignore le nom. Mais tout de suite j'en suis partie, décidée à profiter de la situation, à aller chez Mademoiselle d'Estol en me faisant passer pour Baratov. Vous affirmez n'avoir rien pris que les titres à Baratov ? Demanda Monsieur Lisney. Je l'affirme, monsieur le juge d'instruction. Et puisque vous dites qu'il a été dépouillé de son argent et de ses bijoux, « celui qui l'a dépouillé est celui qui, après mon départ, l'a tué. » Nanta, ici, intervint encore. « Si c'est vrai, il faut reconnaître que vous lui avez bougrement facilité la besogne, au voleur et à l'assassin, en laissant le Baratov bâillonner et ligoter des pieds à la tête. » Gérard ne répondit pas sur le champ. Il avait eu déjà cette pensée, et elle lui faisait horreur. « Monsieur le juge, dit-il soudain, quels qu'aient été mes torts et mes imprudences, je suis innocent du meurtre de Baratov. Je sens que vous me croyez, mais pour la justice, pour moi, pour que mon innocence éclate indéniable aux yeux de tous, il faut retrouver le vrai coupable. » « C'est une bonne idée, prononça Nanta, à demi-sérieux, à demi-coyeur. « Comment est-ce que vous vous y prendriez ? Dites voir un peu. » Gérard l'observa. Cet homme lui inspirait peu de sympathie. En cet homme, il voyait un adversaire le plus dangereux et le plus acharné à le croire coupable. Pourtant, il le distinguait impartial, prêt à admettre la vérité si elle s'imposait à son esprit soupçonneux et sceptique par profession. « Monsieur l'inspecteur, ce n'est pas à moi de chercher, c'est votre métier, et c'est de vous et de votre expérience que peut venir toute la lumière. Au fond, je suis persuadée que votre certitude à mon égard n'est plus la même. Je vous supplie d'agir, monsieur l'inspecteur. » Nanta parut flatté. Il arpenta la pièce de long en large, les mains au dos, puis, s'arrêtant net, il dit d'un ton bourru « Aussi, diable, pourquoi n'avez-vous pas parlé tantôt ? Si vous m'aviez fourni les explications que je vous demandais avec insistance et que vous venez de fournir, nous n'en serions pas là. »
« Je ne comprends pas, monsieur l'inspecteur. »
« mais si, nous avons perdu du temps. » Il reprit sa promenade, indécis et grognon. Puis de nouveau, il revint vers Gérard et brusquement lui tendit la main.
« Faisons la paix, voulez-vous ? »
« Oh, très volontiers !» fit Gérard, qui n'eut pas l'air de remarquer le changement d'attitude du policier. « Et puis, voyons, » repartit Nanta, « essayons de démêler la situation, hein ? Somme toute, quelle preuve a-t-on contre vous ? Récapitulons. Votre querelle avec Baratov, vous en avez dit le motif, et ça ne paraît pas invraisemblable. Les titres que vous lui avez pris, vous avez expliqué l'affaire. Reste la disparition des bijoux et de l'argent.
« Faites une perquisition chez moi, » dit Gérard.
« C'est déjà fait, » ricana Nanta. Donc, à ce propos, quitus. Seulement, il y a la preuve principale. C'est qu'entre le moment où vous êtes sorti de chez Baratov et celui où on l'a trouvé zigouillé, personne n'est entré.
« Et qui dit cela ?» demanda Gérard.
« Le garçon d'étage, il est formel. »
Gérard se récria.
« Mais il peut se tromper, cet homme. »
« Non, » dit Nanta nettement.
« Mais il peut mentir. »«
Hein ?»«
Dame, quand un monsieur accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose que ce quelqu'un n'a pas fait, n'a-t-on pas le droit de se demander pourquoi le dit monsieur accuse ?»
Gérard murmura « C'est vrai, après tout, car enfin, étant seul, à proximité de la porte, il n'avait qu'à franchir quelques mètres d'un couloir désert. Ah, quel dommage qu'on ne l'ait pas surveillé depuis !»
Du coup, Nanta eut un petit rire sec.
« Ah ça, voyons, mon petit, vous me croyez jeune, tout de même, hein, depuis ce matin, 10 heures. Qu'il a quitté d'ici, je le fais filer, moi, le garçon d'étage, le nommé Manuel. »
Le juge d'instruction et Gérard semblèrent stupéfaits.
« Ben oui, quoi !» continua Nanta. « Il y avait toutes les preuves contre vous, l'homme de Larix, et je vous croyais, dur comme fer, coupable. Mais, pour votre gouverne, en police, j'ai un principe. » Jamais négliger aucune piste, même secondaire. Subséquemment, tout en fonçant sur vous, je faisais prendre en filature le nommé Manuel.
Conclusion ?
Conclusion ?
Interrogea M. Lisney, qui avait subi avec amusement l'argumentation du policier et les phases de son revirement.
Conclusion ? C'est la même que la vôtre, monsieur le juge. On a fait fausse route. Et il n'y a plus une minute à perdre. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'adjoindre un collaborateur.
Qui donc ?
Un gars solide, d'aplomb sur ses jambes, qu'a un cran de tous les diables et de la jugeote.
Mais enfin, qui ?
Le sieur Gérard, ici présent. Ni le parquet ni la sûreté ne songent à le retenir, n'est-ce pas ? Dans ce cas-là, donnez-le-moi. À nous deux, ça va ronfler. « N'est-ce pas, camarade ?»
Dès cet instant, Gérard ne quitta plus Nanta. Infatigable lui-même, il s'étonnait de l'activité du policier. Nanta ne semblait pas soumis aux besoins physiques des autres hommes. Il mangeait à peine, il ne dormait pas. Avec lui, Gérard passa, sans en être gêné d'ailleurs, 2 journées de jeûne presque absolu et d'insomnie totale. Le but à atteindre pour Nanta, c'était la découverte de la vérité dans l'affaire du nouveau palace. Et à ce but, Nanta sacrifiait tout, même les apéritifs. Il parlait peu. Les découvertes qu'ils firent ensemble
il n'éprouvait pas le besoin de se les communiquer. L'un et l'autre en comprenaient en même temps l'intérêt ou la vanité. Les difficultés de l'enquête provenaient de la façon d'agir, fort louche, mais fort habile, du garçon d'étage. Manuel n'était jamais de service au nouveau palace que la nuit. À 10 heures du matin, il sortait et rentrait à 5 heures du soir. Or, malgré l'extraordinaire expérience de Nanta et de ses agents dans les filatures, le garçon d'étage, Manuel, qui se méfiait, bien que ne se sachant pas poursuivi, arrivait toujours à dépister la meute des limiers. Où allait-il? Que faisait-il? Ce n'est que le 3e jour qu'un résultat fut obtenu. « Maintenant, mon vieux Gérard, » dit Nanta dans le bar voisin du nouveau palace où il se trouvait, « nous pouvons marcher. » Un client qui n'a rien à se reprocher ne se défile pas de la sorte. 2. Nous savons, par un bout de conversation entendu, que le sieur Manuel fait partie d'une bande, qu'il y a eu des vols commis dans l'hôtel depuis qu'il y est employé, et qu'un des receleurs de la bande est un type qui demeure dans les environs de la rue d'Aboukir et qui, justement, vient se défaire, pour une bouchée de pain, d'un lot de bijoux russes. Ça me suffit. Je cours chercher un mandat contre notre homme. Il vit à l'hôtel. À 6 heures avant la nuit, nous montons dans sa chambre. D'ici là, ouvre l'œil. Bon, voilà que je te tutoie. Tu m'en veux pas. Quand on travaille ensemble, mais faut pas qu'il s'esbigne, hein ? Les événements se déroulèrent autrement que ne l'avait prévu Nanta, et d'une façon beaucoup plus rapide. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées depuis le départ de Nanta, que Gérard vit surgir du nouveau palace, par la sortie réservée au personnel, un homme jeune, de petite taille, en qui il reconnut le garçon d'étage. Il portait 2 valises, et tout de suite, héla un taxi qui passait. Gérard songea aussitôt, employant l'expression de Nanta, « Il s'esbigne. Si je ne m'en mêle pas, adieu. » Il courut sur le trottoir opposé. Manuel avait placé ses 2 valises et monté dans l'auto en jetant au chauffeur « Gare du Nord !»« À la préfecture de police, 36 quai des Orfèvres !» ordonna Gérard, qui, bousculant le garçon d'étage, sautait près de lui, refermait la portière, saisissait de sa main droite le poignet de l'homme et le tordait. Manuel cria de douleur et voulut se débattre. « Pas un geste !» commanda Gérard. « Si tu bouges, si tu essaies de descendre, je te casse le bras !» La voix était impérieuse, l'étreinte si violente que Manuel demeura inerte. Il voulut parler, protester, Gérard le rembarra. « Pas un mot. Inutile. Tu t'expliqueras à la sûreté. » Un quart d'heure plus tard, quand ils arrivèrent à la sûreté et que Gérard eut remis entre les mains de Nanta le garçon d'étage, celui-ci se trouvait dans un tel état de prostration que, de lui-même, avant même d'être interrogé, il bredouilla. « Ben oui, c'est moi. Je savais que le russe avait des valeurs et des bijoux. Alors j'ai tenté le coup, et quand celui-là, il désignait Gérard, fut parti, je suis entré. Je comptais trouver Baratov endormi dans la seconde pièce. Il était debout, dans la première. Il avait aux poignets et aux chevilles des courroies qui pendaient, et il était en train d'enlever une serviette qui le bâillonnait. Il a compris pourquoi je venais. Il m'a sauté dessus. Nous nous sommes battus. Il a été le plus fort. J'étais par terre. Lui, sur moi, qui m'écrasait. Alors, dame, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Mais j'avais pas l'intention de jouer du couteau quand je suis entrée. Je voulais seulement le dévaliser. Quand j'ai vu qu'il était mort, j'ai fouillé son portefeuille, ses valises, j'ai enlevé les courroies de ses poignets pour que ça n'ait pas l'air drôle qu'on l'ait attaché avant de l'égorger. Vous comprenez, le coup était sûr. Il s'était battu avec son ami. On les avait entendus. Donc, l'assassinat... Donc, tu avais bien l'intention, en entrant, d'assassiner, ricana Nanta. Allons, Oust, tu es cuit. il se tourna vers Gérard.
« Comme ça, vous voyez ?» dit-il en confidence. « Puisque le Baratov était déficelé avant, vous n'êtes responsable de rien du tout. »
« Dieu merci !» murmura Gérard. Ils eurent tort d'échanger ces quelques paroles et de relâcher leur attention. Manuel en profita. Tirant de sa poche un warning, il en mit le canon dans sa bouche. La détonation retentit. Il tomba, mort.
« C'est une aubaine pour vous, le suicide de Manuel !» dit Nanta à Gérard lorsqu'ils se quittèrent.
« L'affaire va être classée. Votre nom ne sera même pas prononcé, et encore moins celui de Mademoiselle d'Estol.
Où allez-vous maintenant ?»«
Je prends le train cette nuit et rejoins ma mère. »«
Eh bien, camarade, vous lui souhaiterez bien le bonjour à votre maman, et vous lui direz de ma part qu'elle a un rude fils. Fichtre, vous êtes d'aplomb sur vos jambes, vous.
Un mot encore. Je me suis trompé sur vous au début. Vous ne m'en voulez pas. »
« Pouvez-vous demander cela ?» dit Gérard dans un élan spontané.
Ils se serrèrent la main amicalement. Ils se connaissaient peu, mais ils avaient appris en quelques jours à s'estimer. Libéré de tout soupçon, définitivement hors de cause, Gérard, fidèle à sa parole, n'essaya pas de revoir Nelly Rose. Il se donna la mélancolique satisfaction de passer sur la place du Trocadéro, regarda la fenêtre de la jeune fille et s'éloigna, lui disant un éternel adieu. 2 heures après, il était dans le train de nuit qui l'emportait vers la Normandie. Il allait voir sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans, sa mère qui l'adorait, et dont l'affection confiante avait toujours été pour lui, aux pires heures de sa vie, comme un réconfort. Auprès d'elle, dans la petite ferme qu'elle faisait valoir elle-même depuis la mort de son mari, il trouverait une fois de plus le repos pacifiant. Et il songeait surtout, à Nelly Rose. Chapitre 5 Je vous attendais.
« Mon Dieu, c'est affreux cette incertitude !» gémit Madame d'Estol. « Mon bon Valnet, c'est affreux! Pourquoi est-elle partie? Va-t-elle revenir comme elle le dit dans son pneumatique? Elle prétend qu'elle a besoin de solitude et de repos. Qu'est-ce que cela cache? Qu'en pensez-vous, Valnet ?»
Démoralisée, anxieuse, Madame d'Estol regardait Valnet avec détresse. Il était assis en face d'elle dans le boudoir de Nelly Rose. C'était le lundi après-midi, date fixée par la jeune fille pour son retour, et tous deux l'attendaient. Valnet, malgré les soucis que lui causait la conduite singulière de Nelly Rose, voulait être optimiste. « Chère madame, il est naturel que Nelly Rose, après les profondes émotions qui l'ont bouleversée, ait désiré vivre quelques jours à l'écart. Nous allons la voir paraître d'un moment à l'autre. » Elle vous expliquera tout selon sa promesse.
Dieu vous entende, Valnet. Mais malgré moi, voyez-vous, je me demande par moments si ce besoin de solitude n'a pas une autre explication.
Quelle explication, chère madame?
Qui vous assure que Nelly Rose n'a pas voulu rejoindre cet infâme Gérard, et que pendant que nous l'attendons ici, elle n'est pas avec lui, comme en ce matin épouvantable?
« Vous êtes folle !» cria sans respect Valnet bouleversé.
« Oui, ma pauvre tête s'égare. Mais Valnet, croyez-moi, on peut tout redouter quand il s'agit de faiblesses féminines et d'entraînements sentimentaux. Ainsi, tenez !» Elle allait citer un ou deux exemples tirés de ses aventures passées. Elle s'arrêta à temps et dit seulement « Non, Nelly Rose est incapable !» Je veux le croire. Mais comme cette enfant est étrange et mystérieuse, que signifie cette allusion à la richesse qu'elle m'annonce pour nous? Là non plus, je ne comprends pas.
Je crois comprendre, moi, dit Valnet. Votre fille a décidé d'accepter ma demande en mariage. C'est la seule explication possible à la phrase de son pneumatique. Dans le bouleversement où ces dramatiques événements l'ont jetée, Elle a compris la valeur de mon amour sûr, paisible, dévoué, qui lui fera une existence honorable et digne d'elle, entre vous, sa mère, et moi, son époux. » Il parlait avec conviction, mais cependant il était ulcéré en pensant à ce qui s'était passé en cette nuit mystérieuse du 8 au 9 mai, et à ce qui s'était passé depuis. Il n'aurait pas affirmé que Nelly Rose eût commis des actes irréparables, mais il n'était pas sûr du contraire. Madame d'Estol, sans se rendre compte des tourments jaloux qu'il éprouvait, s'accrocha, non sans maladresse, à cet espoir qu'il formulait, et auquel, malgré tout, elle ne croyait guère. « en effet, Valnet, vous avez raison de l'excuser, de l'absoudre. Elle est inconsidérée. Elle se laisse aller à des imprudences qui semblent coupables. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Mariée avec vous, elle sera sage. Mais où est-elle à présent? Mon Dieu, où est-elle? L'heure passe. Valnet, mon ami, je suis sûre qu'elle veut vous épouser. Sans cela... » Elle s'interrompit, se dressa, pâle, crispée. Il y avait dans la serrure un bruit de clé. La porte s'ouvrit. Nelly Rose entra. « Ma petite! Ah, mon Dieu, ma petite, c'est toi !» s'écria Madame d'Estol. Et, succombant à de longues émotions, elle s'affaissa sur le divan, en proie à une violente crise nerveuse. Valnet se précipita, lui fit respirer de l'éther. Stupéfaite d'être accueillie ainsi, Nelly Rose restait debout, immobile, sur le seuil. Elle balbutia. « Mais qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que cela veut dire ?»« C'est votre pneumatique et votre disparition !» indiqua brièvement Valnet, absorbé par les soins qu'il donnait à Madame d'Estol. « Mon pneumatique? Ma disparition ?» répéta Nelly Rose. « Ah ! Voyons, ce que j'ai écrit était clair pourtant !» Elle ne comprenait pas. Elle rentrait si joyeuse, affranchie de tout souci et de tout souvenir pénible. Ses jours de solitude dans un quartier lointain, de vie régulière dans la petite pension où elle était inconnue, de calmes promenades à pied dans les vieilles allées du Jardin des Plantes, lui avaient fait tant de bien. Madame d'Estol, cependant, revenait à elle. Elle se dressa, prit sa fille par le bras, la regarda dans les yeux et lui dit avec solennité « Nelly Rose, mon enfant, maintenant il faut me dire la vérité. Depuis 3 jours je ne vis plus. Je veux savoir, ma petite fille, dis-moi ce qui s'est passé entre toi et ce misérable pendant cette horrible nuit. Valnet, dites-lui qu'il faut qu'elle avoue la vérité. » Madame d'Estol s'arrêta. Elle fixait sur sa fille des yeux suppliants. Valnet fit un geste d'impuissance désolée. Nelly Rose, assise en face d'eux, se mit à rire. « Ma pauvre maman, mon bon Valnet, ne soyez pas si tragique !» Madame d'Estol eut un mouvement d'impatience. « Mais je ne suis pas tragique, Nelly Rose, je suis une mère angoissée. Ma pauvre petite, je ne t'ai peut-être pas toujours montré assez mon affection. » Je ne t'ai peut-être pas assez surveillée. Je ne t'ai peut-être pas suffisamment mise en garde contre les hommes, qui sont tous des misérables. Pas vous, Valnet, vous êtes l'exception. Hélas, Nelly Rose, j'en suis bien punie. Mais parle, dis-moi la vérité, que s'est-il passé ? Nelly Rose était toujours souriante. Eh bien, maman, puisque tu tiens à le savoir, en cette nuit mémorable, j'ai eu une conduite très dévergondée et très innocente, en somme. Avec ce misérable, comme tu dis, qui n'est pas du tout un misérable. J'ai couru les bals publics, ou à peu près publics, j'ai bu du champagne, j'ai suscité l'admiration d'ivrognes moscovites contre lesquels il m'a défendu. Et après, il m'a emmené dans sa chambre. Dans sa chambre? Quelle horreur! Gémit Madame d'Estol, pendant que Valnet faisait un geste d'épouvante. « Alors, tu étais dans sa chambre, tandis que nous étions dans la cour, au bas de l'escalier? et que je tenais un revolver en main pour tuer ce bandit ?
Je ne sais où tu étais, maman, mais je sais que je me trouvais dans sa chambre et que tu aurais eu bien tort de le tuer.
Et combien de temps es-tu resté près de lui ?
2 heures, 3 heures.
C'est effrayant ! Et pendant ce temps ?
Pendant ce temps, eh bien, voilà, j'ai dormi, dit Nelly Rose.
Comment cela, dormi ?
Demanda Madame d'Estol.
Mais comment on dort, maman, en fermant les yeux ?
Et lui ? Lui ?
Eh bien, il dormait aussi, appuyé à une table.
Oui, ce misérable, ce bandit, comme tu disais tout à l'heure, s'est finalement conduit avec moi comme le plus généreux et le plus loyal des hommes.
C'est vrai ? Tu me le jures ? Il n'y a rien eu d'autre ?
Maman, tu sais bien que je ne mens jamais.
Mais enfin, c'est un imposteur, un aventurier. On ne sait même pas son nom. Les journaux l'ont dit.
Quel que soit son nom, c'est celui d'un honnête homme. Il a été complètement lavé du soupçon qui a un moment pesé sur lui. Tu as bien vu que le vrai coupable, arrêté, a avoué et s'est tué. Quant à la rixe avec Baratov, qui était vraiment, lui, un misérable, elle a eu lieu pour me protéger.
N'importe, ce Gérard est un fourbe, il s'est fait passer pour un autre.
Il a eu tout à fait tort, et je ne saurais trop l'en blâmer. À part cela, c'est un honnête homme, maman.
Honnête ou non, après tout, je m'en moque,
s'écria Madame d'Estol. L'essentiel, c'est que tu ne le revois pas, et que tu tiennes ton engagement, Nelly Rose.
Quel engagement ?
Enfin, quoi, celui que tu as pris envers notre excellente amie Valnay.
Mais je n'ai pris aucun engagement envers lui, n'est-ce pas, Valnay ?
Celui-ci balbutia. Tout de même, votre promesse...
Mais oui, Nelly Rose, reprit Madame d'Estol. La phrase de ton pneumatique est très claire. Quand tu dis que nous sommes sur le point de devenir riches, je ne vois pas comment nous pourrions devenir riches si tu ne te maries pas.
Avec Valnay ?
Évidemment.
Nelly Rose se mit à rire de bon cœur et dit à sa mère « Il y a un autre moyen, maman, et beaucoup plus simple.
Hein ? Lequel ?
C'est de faire fortune nous-mêmes, ou plutôt de retrouver notre fortune. » Madame d'Estol l'observa.
« Notre fortune ? Quelle fortune ?
Celle qui était perdue. »«
Et tu l'as retrouvée, toi ?»
chuchota Madame d'Estol, la voix altérée. « Pas moi, mais quelqu'un. »«
Quelqu'un ? » ?»«
Maman, si ce quelqu'un avait retrouvé en Russie, après les avoir cherchés, nos titres de Roumanie, le reçu, qui est la preuve de l'achat et du règlement, enfin tous les documents nécessaires, et que ce quelqu'un les ait rapportés pour nous les remettre, dis, maman, est-ce que ce serait un honnête homme à tes yeux ?
C'est lui ? C'est lui qui a fait cela ?
Bégaya Madame d'Estol.
C'est lui, maman. Et c'est pour arracher ses papiers à Baratov, qui voulait nous les voler, qu'il s'est battu avec lui.
Nelly Rose, voyons, voyons. Madame d'Estol haletait.
C'est sérieux ?
Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Au lieu de garder ses millions comme il le pouvait, il a tout remis à la justice pour que cela nous soit restitué.
Mais c'est ahurissant. Bouleversant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ? Pourquoi ne pas me l'avoir écrit ?
Je voulais être sûre.
Et tu es sûre ?
Mon Dieu, oui, dit Nelly gaiement. Je viens de chez Monsieur Lisney, juge d'instruction, et il m'a remis le paquet. Il est là, sur cette table où je l'ai posé en entrant. Madame d'Estol porta la main à son cœur. Elle suffoquait. Allait-elle se trouver mal ? Non. Elle réagit, s'empara du paquet, essaya de le déficeler, n'y parvint pas et s'enfuit dans sa chambre où elle s'enferma. Après son départ, il y eut un petit silence.
Pauvre maman, dit Nelly Rose. J'aurais dû la prévenir plus doucement, mais je ne pensais pas que ma lettre fût si obscure. Ainsi, Valnet, vous avez supposé...
Elle se tut.
Valnet, décontenancé, ne savait que répondre. Enfin, il se leva et dit « Adieu, Nelly Rose. »«
Adieu ? Pourquoi adieu ? Vous partez ?»
Il eut un sourire désolé. « Que ferais-je ici désormais, Nelly Rose ? Vous ne m'avez jamais aimée, et je n'ai même plus l'espoir d'un peu de tendresse, puisque... »«
Puisque ?»
Il lui prit la main doucement et prononça. « Nelly Rose, vous vous rappelez une conversation que nous avons eue après la séance du comité des laboratoires ? Tout en plaisantant, vous m'avez dit que vous espériez bien retrouver votre fortune et que vous rêviez parfois de quelques personnages héroïques et fabuleux, vêtus de velours et chaussés de bottes, qui, à travers mille dangers, se dévoueraient à votre cause et réussiraient. Le miracle a eu lieu. La chimère est devenue une réalité.
Et alors ?
Alors, je ne peux pas lutter contre un héros de roman.
Vous n'avez à lutter contre personne, Valnet.
Si, puisque vous l'aimez.
Nelly Rose fut indignée et protesta, toute rougissante.
Qu'est-ce que vous avez dit, Valnet ?
De quel droit vous permettez-vous ?
Comment ? Un homme que je n'ai vu que quelques heures ?
Oui, mais dans de telles conditions que jamais plus vous ne pourrez vous délivrer de ce souvenir. Il est, il sera l'homme de votre vie.
De cette vie, moi, Nelly Rose, je ne fais plus partie, et je ne peux plus rester. Je ne le peux plus. Adieu, Nelly Rose. Je vous ai beaucoup aimée.
Son ton était triste et sincère. Pour la première fois, Nelly Rose le trouva sans ridicule et fut émue.
« Au revoir, Valnet. Vous resterez mon amie, n'est-ce pas ?»«
J'essaierai, Nelly Rose.
Adieu. »
Il alla vers la porte. Au seuil, il se retourna pour la voir une fois encore, puis sortit.
Nelly Rose garda de cet entretien une impression de gêne qui se traduisit les jours suivants par un nouveau besoin de solitude et d'inaction. Tout travail lui devint impossible. Elle n'alla plus au laboratoire. Elle demeurait chez elle, à rêvasser. Certes, elle n'admit pas un instant que l'affirmation de Valnet fût véridique. Non, elle n'aimait pas ce Gérard, et n'éprouvait pour cet inconnu que des sentiments de reconnaissance.
« Non, non, »
répétait-elle à demi-voix.
« Non, je ne l'aime pas.
On n'aime pas un monsieur qui s'est conduit de telle sorte, un monsieur qu'on ne connaît pas et qui sort d'on ne sait où.
Non, je ne l'aime pas. »
Mais, enfin, il est évident que notre vie, à maman et à moi, est changée grâce à lui. Maman revit, elle est heureuse, riche. La jeune fille, maintenant que l'orage s'en est étalé, voyait les choses sous un autre aspect. La conduite de Gérard ne lui paraissait plus si coupable. Elle pensait beaucoup moins à ce qu'il avait fait de mal qu'à ce qu'il avait fait de bien, et à ce qui méritait peut-être mieux que de la rancune et du silence. Parfois, elle pensait à lui écrire. Un jour, sans trop réfléchir, elle se fit mener à Auteuil, devant la pension russe, entra et dans le bureau vit le patron qui s'y trouvait seul.
« Vous me reconnaissez ?» lui dit-elle,
et elle n'éprouvait aucun embarras. « Je suis venue ici le soir du bal avec Monsieur Gérard. Vous êtes son ami, n'est-ce pas ?»«
Oui, » dit Yegor.
« Il m'a sauvé la vie là-bas. C'est le plus courageux et le plus généreux des hommes. »«
Je le sais, » dit Nelly Rose. « Il a quitté Paris, n'est-ce pas ?»«
Oui. »«
J'ai besoin de savoir où il est. Je voudrais lui écrire. »
Yegor la regarda. Il sentit qu'il n'y avait aucun piège dans cette demande et que le motif n'en pouvait être que loyal.
« Il ne m'a pas donné son adresse, » dit-il, sans poser de questions à Nelly Rose.
« Mais je sais qu'il est auprès de sa mère en Normandie. »
« Et comment se nomme sa mère ?
En quelle ville habite-t-elle ?
Il ne me l'a jamais dit. Cependant, lors de ses précédents séjours, et encore cette fois-ci, il a reçu à plusieurs reprises des lettres d'une écriture un peu tremblée, comme l'écriture d'une femme âgée. Et au dos de l'enveloppe, il y avait « Je n'ai aucune raison de le cacher. « Envoie Dénouville, Seine inférieure. »
C'est cela, certainement.
« Oui, il n'y a pas de doute. Je vous remercie de tout mon cœur, » dit Nelly Rose en lui tendant la main. Nelly Rose n'écriva pas à Gérard. Une semaine passa encore, puis une autre. Elle continuait à rester chez elle, toujours nonchalante et rêveuse. Un après-midi, la mère de Nelly Rose dut s'absenter de Paris pour un très court voyage en province où la réclamaient ses intérêts. Le matin qui suivit, subitement, et sans que son acte fût le résultat d'une longue délibération, Nelly Rose alla prendre au garage son auto qu'elle avait rachetée à Valnay. Elle sortit avant 8 heures. À 11h15, elle dépassait Yvetot. Le village d'Hénouville se trouvait à quelques kilomètres à l'ouest de cette ville. À l'entrée du village, elle laissa son auto devant une auberge. Elle passa devant l'église au moment où en sortait le curé, grand vieillard à la figure rubiconde et à triple menton, au regard plein de bonhomie et de finesse.
« Est-ce que je puis vous demander, monsieur le curé, si vous avez parmi vos paroissiens un jeune homme du nom de Gérard ?»
Le prêtre saisit avidement cette occasion de bavarder et répondit avec effusion.
« Gérard d'Hénouville ?»«
Hénouville, c'est le nom du village. »
« C'est celui du petit Gérard. Il est revenu justement chez sa mère ces temps-ci. Encore hier, je lui disais, « Ce que vous avez forci, mon petit Gérard. Tenez, on voit d'ici les tourelles de son château. »
« Ils ont un château ?» dit Nelly Rose abasourdie.
« Oh, bien délabré. Depuis que le père de Gérard est mort à la guerre, laissant des affaires si embrouillées que Madame d'Hénouville n'a pas pu payer les dettes qu'en vendant tous les meubles, et qu'elle habite une petite ferme, celle qui est au bout du chemin creux.
Mais son fils,
qui est tout le temps en voyage, voudrait bien qu'on restaure le château, et il envoie souvent de l'argent. Mais la maman met tout de côté pour le jour où il se mariera.
Elle veut donc qu'il se marie.
Si elle le veut, une demoiselle qui entrerait ici serait la bienvenue, pourvu qu'elle soit jolie, bonne, et qu'elle aime le petit Gérard plus qu'elle-même.
En attendant, il travaille.
Il travaille, oui, au champ comme un paysan, tandis que sa mère s'occupe de la basse-cour et du verger. Vous la connaissez ?
Pas encore, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer son fils.
Eh bien, mon enfant, vous verrez une sainte et digne femme. Tenez, prenez le raccourci.
Saluant le prêtre et souriant gentiment, elle suivit un sentier qui courait à travers les blés et les avoines vertes. Deux rangées de hêtres surmontaient un talus et bordaient le verger et la ferme. La barrière n'était pas close. Nelly Rose entra dans la cour déserte, animée de pommiers et de poiriers, et dominée, au haut d'une pente, par une longue bâtisse à colombages et à toit de chaume. Presque toutes les portes en étaient ouvertes, ainsi que les fenêtres, et le soleil tombait dru sur un seuil hérissé de cailloux taillés et inégaux. Nelly Rose vit une vaste pièce qui servait de cuisine et de salle. Le fourneau était tout rouge. 3 couverts étaient mis. Elle longea la façade. Une chambre s'ouvrait à l'extrémité. Dans l'ombre, elle aperçut une page du journal épinglée au mur et reconnut la page de la revue polonaise avec ses 3 portraits. Hardiment, elle entra, s'approcha. Une petite photographie était fixée au-dessous. L'ayant détachée, elle lut « Nelly Rose à 10 ans ». Elle dut s'asseoir un instant, toute frémissante, et elle avait l'impression qu'elle ne vivait pas dans la réalité, mais que tout se passait comme dans un conte de fées. N'est-il pas juste, d'ailleurs, qu'il en soit ainsi parfois,
et que la vie, à certaines minutes, prenne l'aspect d'une féerie merveilleuse. Mais un bruit de roues pesantes se faisait entendre du côté de la barrière, et elle sortit aussitôt. C'était une charrette de foin qui rentrait, conduite par Gérard, tête nue, en bras de chemise et en pantalon de treillis bleu, et qui marchait en tenant le cheval par la bride. Il ne vit pas Nelly Rose au seuil de la chaumière et se dirigea vers les communs. Un petit chien à longs poils l'accompagnait. Nelly Rose avança peu à peu. Gérard débouclait le harnais et la bride, mais le chien galopa jusqu'à Nelly Rose et se mit à japper, ce qui attira l'attention de Gérard. Il n'eut pas un geste, pas une exclamation. Le harnais lui tomba des bras, tandis que le cheval rentrait seul à l'écurie. Nelly Rose, qui continuait d'avancer, se trouvait maintenant à quelques pas du jeune homme. Elle s'arrêta, le cœur serré, et elle était surprise de constater que Gérard avait recouvré tout de suite son sang-froid, qu'il ne semblait pas ému et qu'il riait en la regardant avec une tendresse infinie. Il marcha vers elle, les bras tendus, et lui prenant les deux mains, il murmura « Je vous attendais, Nelly Rose. Comme je suis heureux !» Il l'attendait ? Que voulait-il dire ? Nelly Rose, qui était venue sans idée très précise sur ce qui se passerait, mais avec le désir ardent de provoquer une explication, avait l'impression que toutes les paroles devenaient inutiles entre eux et que tout était réglé en dehors d'eux sans même qu'ils eussent besoin de s'expliquer. « Allons embrasser maman, » dit Gérard. « La voici qui sort du potager. » Une dame à cheveux blancs parut sur la droite, un panier sous le bras. Elle était habillée comme une paysanne, avec un tablier bleu qui enveloppait ses vêtements noirs. « Nelly Rose !» présenta Gérard quand ils arrivèrent près d'elle. Un sourire éclaira le doux visage ridé de la vieille dame. Elle contempla la jeune fille et dit à voix basse « Mon Dieu, qu'elle est jolie !» Lui entourant la taille, elle l'embrassa longuement. L'Angélus de midi sonnait sur la calme campagne et sur le verger paisible. « Déjeunons !» dit la vieille dame. « Tout est prêt. Nous vous attendions chaque jour. » Une flamme brilla dans les yeux de la jeune fille. Il était donc vrai que Gérard l'attendait, qu'il considérait comme oubliée et comme insignifiante les fautes dont il s'était rendu coupable, et qu'il savait qu'elle non plus n'en tenait plus compte. Il était donc vrai qu'il avait pressenti sa visite et sa soumission. Elle se révolta. Non, elle n'acceptait pas de se soumettre ainsi. Révolte brève. Un bien-être inexprimable l'envahissait. Elle était profondément heureuse. Elle trouvait naturel le visage satisfait et la quiétude de Gérard. Cela ne la blessait pas. « Mon Dieu !» pensait-elle. « Quelle joie et quelle douceur d'être ici !» Chacune des notes de l'Angélus la pénétrait de sérénité et de béatitude. Debout, la mère disait tout bas, d'une voix tremblante, le bénédicité. Nelly Rose regarda Gérard. Il ne la quittait pas des yeux et demeurait souriant et grave. Elle s'assit et, bouleversée, se mit à pleurer sur un plat de radis qu'on lui offrait. Et à travers ses larmes, elle vit une carte qui était sur son verre et qui portait son nom, Nelly Rose. Ainsi donc il en était ainsi. Gérard l'attendait. Et voilà qu'elle était venue, d'elle-même, sans qu'on la sollicitât, et comme si elle eût accompli la plus naturelle et la plus juste des choses. Et tous les mauvais souvenirs et tous les obstacles s'abolissaient. Et tout l'avenir se déroulerait là, dans cette ferme, dans le château restauré, dans les terres reconquises, dans le domaine reconstitué, dans cette campagne où chaque jour l'Angélus chanterait pour eux sa vieille chanson.